et bienvenue dans cette matinale du mercredi 28 mars 2012. Il est debout, il s'est levé et il râle de bon matin. J'ai nommé Filou à la technique, bien évidemment. Et bonjour à Jean qui est encore chez nous pour 2 semaines. Cette semaine, nous poursuivons les chemises à rayures spéciales Alternabio. Manuel Garcia a interviewé Christian Couturier, ingénieur et membre de l'association Negawatt. Il nous présentera la conférence qu'il animera ce dimanche sur la transition énergétique. Puis, comme tous les mercredis, notre chronique du jour sera 3A246, la chronique de la Maison de la Mémoire. Florian Boulet nous racontera les spectacles publics d'autrefois. Enfin, commençons la journée en beauté et en portugais avec Miroda, un CD de la semaine.
És a medida do imenso. Sou infinito e quantas gotas de sangue pretendes nesta amorosa ferida de tão dilatada.
La chemise à rayures.
Info, invité, reportage
sur Radio Centrafrique.
Alternabio,
foire aux produits bio, aux énergies alternatives et à l'habitat écologique.
Une société avide à l'énergie. Les ressources fossiles, ça me nuise, comment va-t-on faire? Des pistes de solutions avec le scénario Negawatt. Christian Couturier, énergéticien.
Je suis spécialisé utilisés dans l'utilisation de la biomasse pour l'énergie, biogaz et bois énergie. Et le thème de la conférence, donc, c'est la transition énergétique. C'est présenter le scénario Négawatt, qui est un scénario prospectif qui a été établi par une association qui regroupe des spécialistes dans les différents domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables pour imaginer un avenir sans gaz à effet de serre et sans nucléaire. Donc basé sur l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique et les énergies renouvelables.
Comment peut-on être efficace au niveau de l'énergie ?
L'efficacité, c'est utiliser des appareillages qui produisent pour un service, enfin qui consomment pour un service donné moins d'énergie. Donc par exemple, c'est des chaudières à haut rendement, c'est des moteurs à haut rendement, c'est des ampoules basse consommation, c'est des bâtiments qui sont bien isolés, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Après, le deuxième pilier, ou le premier même, c'est ce qu'on appelle la sobriété. Donc la sobriété énergétique, c'est le raisonnement des besoins. Donc c'est, par exemple, l'organisation de l'urbanisme pour éviter qu'on ait besoin de prendre la voiture pour aller au travail tous les jours. C'est le développement des transports en commun. C'est utiliser des matériaux en moindre quantité qu'aujourd'hui pour, par exemple, dans la construction des bâtiments, c'est utiliser moins de béton, moins d'acier, moins de verre, etc. Et utiliser plus de bois, par exemple, et de matériaux isolants à base de produits végétaux.
Et alors, les énergies renouvelables, sur quoi vous orientez-vous ? Est-ce que c'est on se focalise sur quelque chose de bien précis, ou alors on va aller vers une grande diversité de possibilités de production ?
Non, c'est vraiment une grande diversité, parce qu'on a besoin de mobiliser tout ce qui est potentiellement utilisable, hein, parce que on aura besoin de biomasse, on aura besoin d'éolien, de solaire, de géothermie, etc. Donc il faut vraiment utiliser tous les potentiels possibles parce qu'on a quand même en divisant par 3 les besoins d'énergie, donc le scénario négawatt en 2050, c'est une division par 3 des besoins d'énergie. Ça veut dire qu'il reste quand même encore des besoins d'énergie à produire qui sont conséquents, et on ne peut pas se permettre de faire l'impasse sur une filière énergie renouvelable. Donc on utilise tout ce qui est disponible.
Dans le scénario négawatt, pourquoi le nucléaire a une très mauvaise place ?
Il a une mauvaise place parce que ce n'est pas une énergie durable. Ce qui dure dans le nucléaire, c'est surtout les déchets radioactifs qui restent dangereux pendant 200 000 ans. Donc on ne peut pas considérer ça. Nous, en tout cas, on ne considère pas le nucléaire comme étant une énergie qui doit être développée et poursuivie. Donc on sort du nucléaire en 2033. Grosso modo, c'est le temps de mettre en place des solutions alternatives, donc à la fois diminuer la consommation d'énergie et développer les énergies renouvelables sans pour autant qu'on soit obligé d'utiliser plus de gaz fossiles pour assurer la phase de sortie du nucléaire, enfin la production d'électricité pendant la phase de sortie du nucléaire. Donc c'est une sortie en 20 ans, avec des objectifs de reconversion de l'industrie nucléaire vers le démantèlement des centrales, plutôt que de la poursuite de la construction et de l'exploitation de nouveaux réacteurs.
En divisant la quantité nécessaire, la quantité demandée d'énergie par 3, est-ce que avec toutes les énergies renouvelables dont on a à notre disposition, est-ce qu'on peut arriver à produire suffisamment ?
On produit 90% de nos besoins, c'est-à-dire qu'il restera encore des formes d'énergie pour lesquelles on a du mal à trouver des équivalents en énergie renouvelable, notamment le kérosène pour les avions. Il restera quand même des avions dans notre scénario, moins qu'aujourd'hui, on n'aura plus de vols aériens en intérieur, à l'intérieur de la France métropolitaine, mais il restera quand même des besoins de kérosène, et donc il nous restera un peu de produits pétroliers. Mais sinon, tout le reste, ce sont des ressources renouvelables.
Dans le scénario négawatt, comment va-t-on gérer ces déchets nucléaires ? Parce qu'on les a pour un moment, quoi.
Ah oui, mais ça, scénario négawatt ou pas, on les aura dans tous les cas. Donc nous, on ne s'est pas prononcé sur la façon dont on va gérer les déchets nucléaires. Ça dépasse le cadre du scénario. Simplement, dans le scénario, on dit on arrête d'en produire des nouveaux. Après, ce qu'on a de toute façon déjà aujourd'hui, mais même ce qu'on a produit depuis le début de la production nucléaire, il faudra bien trouver une solution. Et nous, on est c'est pas à nous de dire quelle solution il faut trouver, c'est à ceux qui les ont produits de nous dire comment ils entendent les gérer maintenant.
Vous êtes spécialisé dans la biomasse actuellement, dans cette énergie renouvelable. Où en est-on? Est-ce qu'on arrive à faire, est-ce qu'il y a des résultats concrets et satisfaisants?
Ah ben oui, déjà, le bois énergie, c'est historiquement la première énergie qui a été utilisée par l'humanité. Ça reste la première source d'énergie renouvelable, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Nous, on vise à améliorer l'efficacité de l'utilisation de la biomasse. Donc déjà, le bois utilisé par les ménages aujourd'hui, hein, on peut simplement augmenter le rendement des appareils de chauffage au bois en utilisant des poêles et des inserts qui ont des rendements de 80% en remplacement des inserts existants, ceux qui ont aujourd'hui une vingtaine d'années, les rendements sont de 30%. Donc à confort égal, on peut déjà diviser par deux la consommation de bois énergie dans un logement. Et donc, ben, ça veut dire qu'on libère du coup de la ressource pour chauffer notre logement. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, la deuxième chose, ben, c'est de créer des réseaux de chaleur urbains ou dans les villages pour alimenter les bâtiments publics, les collectifs, le tertiaire, etc., avec des chaudières bois qui sont équipées de filtres pour éviter la pollution atmosphérique, hein. Et puis, troisième point, c'est développer des projets de méthanisation pour traiter des déchets de l'agriculture, de l'agroalimentaire, les déchets de cuisine, etc., pour faire du gaz renouvelable qui va venir en substitution au gaz naturel fossile importé.
Venez découvrir le scénario Négawatt ce dimanche à 16h30 à Alternabio. Christian Couturier vous donnera quelques pistes à développer.
A 246. Chronique de la maison de la mémoire.
Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelques spectacles publics à l'occasion des foires, et notamment de la foire du 4 mai qu'on connaît encore, qui existe encore à Sainte-Afrique, mais qui, au XIXe siècle et même après, était particulièrement importante et attirait beaucoup de monde, parce que c'était ce qu'on appelait la foire de la Loue. En fait, c'était la foire au cours de laquelle les ouvriers agricoles ou les domestiques trouvaient du travail. À ce moment-là, ils étaient embauchés pour un an, et c'était ce jour-là que tout se jouait, on va dire. Ce qui fait que ça attirait beaucoup de gens, et les domestiques ou les ouvriers, quand ils arrivaient à cette foire-là, ils venaient de toucher leur solde, donc ils avaient pas mal d'argent. Ce qui attirait, d'après ce qu'on lit dans les journaux, pas mal de filous, comme ils disent, qui détroussaient les gens de leur portefeuille. Mais ça attirait aussi beaucoup d'artistes divers et variés qui profitaient de l'argent disponible pour venir s'installer quelques jours à Sainte-Afrique. Alors on trouve un petit peu de tout. Il y avait notamment des diseuses de bonne aventure, des voyantes, ce qu'ils appellent des charlatans. En fait, ça devait être des gens qui avaient soi-disant des dons et qui en faisaient la démonstration, et qui tous apparemment étaient installés dans des baraques, à peu près au niveau du Pont Neuf et puis sur le boulevard de Verdun. C'était aussi l'occasion pour les Saint-Africains et au sens large quoi, de toute la région, d'aller voir un spectacle de cirque, parce qu'il y avait des cirques qui venaient s'installer chaque année. Et d'ailleurs, dans un livre de photos sur Sainte-Afrique, il y a deux cartes postales où on voit un des cirques, le cirque des gens, je crois, donc on voit apparaître souvent dans les articles de la presse, donc qui devait être un cirque de la région assez connu. Et puis des fois, ça donne lieu à quelques anecdotes un peu amusantes, notamment en 1888, où en fait le journaliste y rapporte qu'il y avait deux cirques qui étaient venus s'installer. Donc le fameux cirque des gens qui avait fait ses preuves et que tout le monde semblait apprécier. Et un autre venu de je ne sais où. Et donc, avant le spectacle, il était habituel que la troupe faisait une parade en ville. Et là, le journaliste y rapporte que ça a créé un grand choc pour la population. Parce qu'en fait, les artistes et en particulier les femmes ont fait comme une célèbre artiste, alors à Berlin, mais ils ne précisent pas le nom, et en fait se sont promenés en ville en costume très serré et couleur chair. Et là, du coup, c'était un attentat général à la pudeur, Si bien que ben, le soir, quand il y a eu la représentation, ben, le cirque n'a attiré personne et c'est le cirque des gens qui a attiré tout le monde. Mais ça a créé apparemment un grand scandale en ville. On voit aussi une animation qui est récurrente et qui a l'air vraiment assez, assez prisée des gens à ce moment-là. C'est le manège des chevaux de bois. Parce qu'il est là chaque année. Et quand il n'est pas là, en fait, ben, le journaliste le retranscrit et dit que voilà, le manège n'était pas là. Et il était souvent installé du côté du boulevard Victor Hugo aujourd'hui. Et la seule année où on ne le voit pas, en même temps, il précise que les voisins devaient être bien contents parce qu'il y a l'orgue de Barbarie qui va avec. Donc il devait faire un certain bruit et déranger certaines personnes. Et enfin, des fois, on trouve aussi, il y a quelques mentions un peu originales. Et alors, il y en a une qui est très énigmatique, mais qui avait l'air très courue et très à la mode. C'est les mangeurs de chair crue. On les voit apparaître plusieurs fois. C'est vraiment une animation ludique, quoi. Mais on n'a pas trouvé vraiment en quoi ça consistait, ni qui c'était. Voilà, après, on sait, donc par les photos dont je parlais, qu'il y avait aussi des fois des... On va dire des spectacles qui tenaient plus de l'exposition. Il y a notamment dans ces photos-là, c'est le fameux Ange Albert, qui apparemment était doté d'une force herculéenne. Et puis ça nous rappelle aussi un monsieur de la région qui était né dans une ferme qu'on appelait le géant Côte, et qui en fait, je crois à la fin de sa vie, mesurait 2,30 m, et qui du coup ben, en fait, a gagné sa vie dans les cirques où en fait il était exposé pour sa grande taille. Voilà quelques animations auxquelles pouvaient assister les Saint-Africains lors des foires, donc une fois par an, quoi, un peu plus exceptionnel que d'habitude.
3A 246. Chronique de la Maison de la Mémoire. Avec la participation de toute l'équipe de la Maison de la Mémoire du pays Saint-Africain, Florian Boulet, Sophie Roumégous, Julien Cossat, Delphine Diez, Stéphane Géniès.
CD de la semaine. Le CD de la semaine.
Le CD de la semaine.
Sur Radio Saint-Af.
Je suis sous ton balcon, comme Roméo, Marie-Christine, je reviens. Comme l'assassin sur les lieux de son crime. Mais notre amour n'est pas mort, hein? Hein? Dis-moi que non. Depuis que l'on s'est quitté, je te jure que j'ai bien changé. Tu ne me reconnaîtrais plus. Et d'abord, je ne bois plus. Je suis rangé de rabat. Je suis un salaud, Marie-Christine. Je t'en prie, encore une fois, montre-toi magnanime. Donne-moi une chance, encore. Recommençons. En moi, il y a du bon aussi. Ne me fais pas plus noir que je suis. Je suis bourré, bonnes intentions. J'ai trouvé du boulot, Marie-Christine. C'est sérieux, j'ai balancé mon dictionnaire de rimes. Je n'écris plus de chansons, non. Je travaille pour de bon, ouais. Les copains que tu n'aimais pas, maintenant ils rigolent sans moi. D'ailleurs, je te les ai emmenés tu n'as qu'à leur demander. On est sous ton balcon, comme Roméo. Marie-Christine, ne fais pas la sourde oreille à ce cri unanime. Je t'en supplie, mon trésor. Puisque c'est ça, je vais me saouler la
Ça fait du bien un peu d'ivresse de temps en temps quand même. Hein. Je suis Sou, extrait de l'album Récréation, un CD de la semaine que vous pouvez retrouver sur le site internet de Radio Sainte-Afrique. Des reprises uniques de Nougaro, certaines calmes et d'autres endiablées, toutes interprétées par Su Hubiette et Pucholina et leurs fabuleux musiciens. Bonne journée, soirée à toutes et à tous, on se retrouve demain à la même heure, d'ici là profitez bien de la vie.